Vivre FM, l'invité de la rédaction, podcast.
Éric Jeuntet, notre invité ce matin pour son livre intitulé Tomber. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
On va peut-être raconter tout de suite la première, toute première paragraphe de ce livre. Vous avez 12 ans, votre maman vous emmène chez l'orthophoniste.
Donc c'est moi en fait le héros, c'est ça. Oui, c'est moi.
C'est vous?
Oui, c'est vrai.
On va reposer la question après parce que on ne sait pas si c'est vous et jusqu'à quel point c'est vous. Et l'orthophoniste constate que vous êtes dyslexique et le monde change à partir de là.
Ouais, bon, c'est un monde difficile déjà pour ce petit garçon qui s'appelle Mariano et qui effectivement est en difficulté scolaire. C'est pas une nouveauté pour lui. Il a pas mal de difficultés dans la vie. Effectivement.
Jusqu'ici, c'est vous.
Ouais, jusque là, c'est moi. Et puis même après, c'est moi. Et donc oui, dyslexique. Donc lui, pour lui, dyslexique, ça veut dire quoi? Donc il sait pas trop, et il va vivre avec ça, avec ce boulet-là. Quelques temps après, sa maman va partir, et il va se retrouver seul avec son papa.
Ah, c'est pire que ça, c'est-à-dire que on a vraiment l'impression que le retour de chez l'orthophoniste, la maman disparaît.
Ouais, parce que je pense qu'elle n'assume pas du tout cette différence-là, et au lieu de l'affronter, bah, elle préfère disparaître, mais on saura à la fin... qu'elle a choisi un raccourci. Parfois dans la vie, on choisit un raccourci. Alors c'est vrai que c'est difficile pour un petit garçon d'imaginer sa maman partie, sans savoir pourquoi d'ailleurs, parce que lui, il comprend pas, et en plus, il culpabilise beaucoup. Il se dit que c'est sans doute à cause de sa dyslexie. Il se demande si on peut vivre avec un petit garçon dyslexique. Et il sait même pas ce que ça veut dire, dyslexique.
C'est souvent les papas qui disparaissent dans ce genre de situation, dans la réalité.
Vous dites que les hommes sont moins courageux, en fait.
Je sais pas, c'est ce qu'on constate.
Oui, c'est bon. Mais j'aime bien verser les choses dans la vie. Et puis, je pense qu'une maman doit s'occuper de son petit garçon. Donc, le fait qu'elle part, c'est un peu c'est une vraie lâcheté.
Et pour vous, l'annonce de ce diagnostic, c'est plein de questions. Il y a un certain nombre d'enfants dont on dit que, au moment où on leur dit qu'il y a un diagnostic, et du coup, ça explique les raisons de l'échec scolaire et des difficultés qu'ils affrontent au quotidien, finalement, ça peut être un soulagement. Mais vous, vous le vivez pas comme ça.
Bah, c'est pas un soulagement puisque ça change pas grand chose pour lui. Ces difficultés, elles ont...
Sauf qu'il va falloir aller chez l'orthophoniste maintenant deux fois par semaine, trois fois par semaine, je sais pas.
Ouais, sauf qu'il n'ira pas, du coup, puisque sa maman s'en va et que son papa va pas du tout s'occuper de ça. Il va se retrouver même en difficulté, son père, puisque sa femme est partie. Lui, il va plutôt se réfugier dans l'alcool en délaissant son enfant. Donc lui, l'enfant, Mariano, est confronté vraiment à lui-même et va se réfugier dans le sport.
Parce que, à ce moment-là, on peut dire que tout va mal pour Mariano, le personnage. Du coup, là, c'est peut-être moins vous, c'est le personnage. Il a ce trouble sévère d'apprentissage qui lui rend l'école extrêmement difficile. Sa maman est partie, son papa est alcoolique, il est à la maison. Et alors, il y a un moment où vous décrivez le frigidaire, il reste une vieille boîte de je sais pas quoi et des bouteilles, quoi.
C'est ça. Il se retrouve vraiment confronté à lui-même. Il se débrouille. Voilà. Il essaye de quand même aller à l'école. Il essaye d'apprendre des leçons, mais c'est compliqué pour lui.
Alors il cache les bulletins de notes, il planque les heures de colle.
Voilà. Mais ce jour-là, il n'a qu'une envie, c'est voir le match de Yannick Noah en Langaros, parce qu'on est en fait, on l'a pas dit, mais le 5 juin 1983. Ce jour-là, Yannick Noah affronte Mats Wilander sur le central de Roland Garros.
C'est la fameuse finale.
Voilà, la dernière finale remportée par un Français. Ça n'avait pas été le cas depuis Marcel Bernard en 47, donc c'est un événement. Le titre de l'équipe de la veille, c'est 50 millions de Noah. On est en 83 dans une France quand même pas mal raciste.
C'est-à-dire que le petit garçon qui a 12 ans, qui est plus un petit garçon, le jeune adolescent, qui vit avec cette différence, finalement il se reconnaît dans ce personnage de Yannick Noah, qui est français, parce qu'on est très content qu'il soit en finale, mais en même temps on se dit, ah, il est un peu qu'à mon nez quand même, parce que quand même il est noir. Quoi.
Bah voilà. C'est cette différence-là, en fait, à laquelle s'identifie Mariano, puisque il se dit que Noah est un peu comme lui, finalement. Il est différent, voilà, et il va se réfugier. Normalement, quand on a cet âge-là et qu'on est en difficulté dans la vie, on se réfugie beaucoup dans la lecture.
Il peut pas lire, parce qu'il sait pas lire. Il a cette dyslexie, voilà. Il savait pas lire. Quand vous aviez 12 ans, vous ne saviez pas lire?
Très très mal, au point même d'avoir à peu près le même niveau à 19 ans. C'est-à-dire, si je sais que j'exagère légèrement, je dis que je ne savais pas trop lire à 19 ans, ni écrire d'ailleurs.
Et aujourd'hui, vous écrivez des livres?
Ben, j'en ai fait 4, mais j'ai beaucoup travaillé pour ça. Et c'est une belle histoire en même temps. Et justement, malgré ce handicap-là, parce qu'on met ce mot, j'ai mis ce mot sur ma vie il n'y a pas si longtemps que ça, en allant voir une orthophoniste il y a 6 ans seulement. Et donc j'ai mis ce mot, handicap, mais on peut le dépasser. En tout cas, c'est ce que j'ai tenté de faire toute ma vie. Mon premier roman, j'ai mis 10 ans à l'écrire. Après, ça s'est enchaîné un peu plus facilement. Là, c'est le quatrième. Et c'est la première fois que je reviens à l'origine. L'origine de, voilà, du mal, on va dire, de la dyslexie, de la différence. C'est un livre sur la différence, un livre sur le silence aussi.
Ça s'appelle Tomber. Éric Jeuneté est notre invité ce matin. C'est un roman inspiré de votre vie et c'est publié aux éditions Héloïse.
Jusqu'à 8h30, l'invité de la rédaction sur Vivre FM.
Éric Jeuneté est notre invité pour son roman Tomber. Vous êtes tombé. On peut dire que l'âge de 12 ans, le moment où est posé ce diagnostic de la dyslexie, et c'est le moment où vous avez touché le fond. C'était là le point de chute, c'est là.
Moi, je pense que le pire n'est jamais certain quand on est dans ce cas-là.
À ce jour, oui.
Je pense que c'est plus tard. Je pense que pour lui, c'est à la fin du livre, mais ça, on peut pas le révéler. Ouais. Là, il touche le fond, mais quand on est tombé. Et en fait, le titre vient aussi du livre de Labrou qui était tombé cette fois, se relever 8.
Ouais.
Voilà, on est obligé de se relever quand on est tombé.
Ouais. Il y a des gens qui s'en remettent pas des chutes.
C'est vrai. Mais qui peuvent vivre avec la chute. Ça peut arriver aussi.
Qu'est-ce qui fait que vous, finalement, vous vous en êtes relevé?
Je pense que j'avais un cadre. Mon papa étant militaire, je pense que voilà, ça m'a donné un cadre dans lequel j'ai pu me reconnaître par moments, en tout cas reconnaître certaines valeurs. Ça m'a aidé. Et puis le sport. Le refuge, c'était le sport. J'étais passionné par le sport et la radio. J'écoutais la radio quand j'étais petit.
Ouais. Ouais. Vous avez fait votre métier?
Et un peu, ouais. Plus maintenant, mais j'ai commencé ma vie professionnelle en faisant de la radio FM.
Mais finalement, cet adolescent, le personnage de votre roman, sa mère est partie, son père il picole, enfin vraiment, mais on a l'impression qu'il fait que ça toute la journée. Il est seul.
Le personnage de Mariano.
Ouais.
Ah oui, c'est un vrai livre sur la solitude. C'est comment on vit quand on est isolé, quand on est incompris, quand on est différent. Et quand on est délaissé, oui, c'est ça.
Il ne peut compter que sur lui.
Ouais, mais c'est bien, ça va lui donner cette force-là, cette force de vouloir s'en sortir. Même si à un moment, il peut basculer. On sent qu'il peut basculer à tout moment, cet enfant.
Oui, et puis, oui, c'est extrêmement fragile tout ça. Il se reconnaît dans ce personnage de Yannick Noah, c'est-à-dire qu'il rêve complètement dans sa télévision. Et cette finale de Roland-Garros, ce juin 1983, tout le monde s'en souvient, enfin,
ouais.
Moins de 20 ans peut-être pas. Et c'est ça qui va le tenir.
Oui, parce qu'il se dit que si Noah gagne, il va, grâce à ça, avoir le courage d'affronter son père. Comme Noah va affronter Wilander, il se dit, voilà, ça va me donner de la force. Et je vais enfin poser les questions que j'ai envie de poser à mon père depuis que ma maman est partie. C'est-à-dire, pourquoi elle est partie? Pourquoi tu vas pas la chercher? Pourquoi tu m'en parles pas? Et est-ce que tu m'aimes? En gros, voilà, les questions qu'il a envie de poser à son père, mais qu'il n'ose pas lui poser.
Et finalement, pour vous, parce que là, c'est vraiment votre histoire, cette passion pour le sport, c'est vraiment votre histoire. Mmh. Et vous êtes mis à écrire un peu comme un champion de tennis, il se dit, mais moi, je veux gagner Roland-Garros. Et vous dites, je sais pas écrire parce que je suis dyslexique, j'ai d'énormes difficultés à l'école. Eh bien, moi, mon objectif dans la vie, c'est d'écrire des livres.
Ouais, je vous disais tout à l'heure, j'ai mis 10 ans à écrire le premier livre, 10 ans, mais à un moment, en regardant une émission de Jean d'Ormesson à la télé, il était l'invité. Alors, je savais pas du tout que sa fille, qui m'en éditrice, allait publier longtemps après.
Ouais, ouais.
Mais je vois Jean d'Ormesson qui dit l'écriture, c'est 5% d'inspiration et 95% de travail. Et là, je me suis dit, il faut bosser. En fait, je crois que dans la vie, il faut bosser. Qui qu'on soit, quoi qu'on ait à faire, il faut travailler. Et c'est ce que j'ai fait, et ça a pris 10 ans, mais je l'ai fait.
Mais vous auriez pu vous lancer dans le sport, vous auriez pu bosser, je sais pas quoi, moi, le 100 mètres.
Oui, bien
puisque
sûr.
C'était votre passion.
J'ai fait pas mal de sport dans ma vie, puis après, vivre du sport, ça veut dire être doué, j'étais pas forcément capable de faire
vivre
une
de
carrière.
L'écriture, on est vraiment dans un parallèle, c'est vraiment la même chose.
Complètement.
Vivre de l'écriture, c'est aussi un défi insensé.
Ouais. Bon, j'ai été sport de France de natation quand j'étais petit. J'ai fait du hand, du foot, mais au-delà, en faire son métier, écrire, on peut écrire 1 heure par jour et progresser. Le sport, si on veut en faire son métier, il faut faire que ça, il faut s'entraîner.
Mais qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, quand on est dyslexique, c'est-à-dire que vous avez 19 ans, vous ne savez pas lire.
À peine.
Vous vous dites, je vais écrire un livre.
C'est plus tard, c'est pas à 19 ans. En fait, je ne sais pas trop, mais je crois que tout ce qui a été difficile à atteindre pour moi dans ma vie, ça me motivait, j'avais envie d'y aller. Tout ce qui était impossible, finalement, j'ai eu envie de le faire. C'est cette fameuse phrase qui dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. bah c'était un peu ça. Et je suis jamais étendu dans le confort. J'aime pas le confort. Chaque fois que quelque chose est installé dans ma vie, j'ai envie de voir autre chose.
Vous voulez être un super héros?
Peut-être pour mon fils. Non, je plaisante. Non, j'ai pas envie d'être un super héros, mais j'ai envie d'écrire des beaux livres, ça c'est sûr. Alors je sais pas si c'est être un héros que d'écrire un livre, mais en tout cas l'orthophoniste que je suis allé voir il y a 6 ans, elle m'a dit vous êtes un héros parce que vous êtes soigné tout seul.
L'invité de la rédaction de Vivre FM jusqu'à 8h30.
Éric Génoté a écrit un roman, ça n'est pas du tout son histoire, ça parle un tout petit peu de lui.
On part de soi hein, pour écrire un livre.
Ça s'appelle Tomber. 80% de vous là-dedans.
Dans le ressenti en fait, parce que j'ai appris ça dans la vie, entre le ressenti et la vérité il y a souvent une grande différence. Et pour écrire ce livre j'ai été chercher les ressentis de mon enfance de dyslexique, donc de mon enfance de petit garçon qui se sent rejeté alors qu'il ne l'est pas forcément, mais qui se sent rejeté, la différence
il se sent rejeté ou il se sent abandonné?
Les deux, parce que quand on est dyslexique et qu'on est nul à l'école, on se sent abandonné, hein, vraiment. Même si on est dans un cadre peut-être même bourgeois, mon père était militaire, il est à la retraite, mais voilà, j'avais pas de difficultés particulières dans la vie, à part ça. Mais
c'est-à-dire qu'il y a des familles a pire, où on dit, vous savez, il y a l'aîné qui est premier de la classe et puis il y a le petit
voilà,
second.
Moi j'étais l'aîné,
mais
ouais. C'était le deuxième qui était premier de la classe. Donc il y a le premier de la classe. Et puis il y avait moi, et moi on savait pas du tout ce qu'on allait faire de moi plus tard.
C'est ça.
Ouais.
Et il y a vraiment un sentiment d'abandon là,
ouais,
c'est-à-dire qu'on dit l'aîné, bon ben, enfin c'est même pas ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on présente d'abord le second et on dit lui il est premier de la classe.
Ouais, le génie, on voilà.
Ouais.
Et puis et on compare directement au deuxième en disant lui voilà c'est un problème. Donc on est un problème, on est un poids pour une famille, mais c'est notre ressenti parce qu'on entend des trucs. C'est peut-être maladroit. Y a
mais on l'entend à l'école, on l'entend à la maison, on l'entend beaucoup.
Non, mais là, on parlait du contexte familial. Ouais. C'est le plus important, hein. C'est celui qui construit. L'école, on s'en remet de tout ce qui se passe à l'école. Par contre, dans une famille, les mots ont vraiment un sens. Et ce qu'on entend, c'est qu'on est un ordinateur. On capte tout, on enregistre tout.
C'est une histoire de résilience.
Absolument, on peut le dire. C'est un vrai cas de résilience. Alors, il y a pire que moi, évidemment, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, évidemment, je suis conscient de ça. Mais c'est voilà, j'aurais pu être en échec de vie complet et très mal tourné.
On dit que on n'est pas expert de la résilience, mais on dit que pour pouvoir se sortir d'une difficulté, d'une situation dans laquelle on a le sentiment que finalement on est précipité vers le gouffre, il faut avoir un ou deux points d'appui qui permettent de se relancer. Ça serait quoi les points d'appui pour vous?
Le sport, forcément. C'est mon refuge.
Mais le sport, enfin, dans votre roman, c'est autant en rêve qu'en pratique. C'est le rêve de sport.
Ouais.
Non, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les rêves, ils sont pas morts?
Parce que, par exemple, Noah sont mes premières larmes, j'ai l'impression. Mes plus vieilles larmes d'émotion, c'est ce match-là. Donc, on sent bien qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, que ces héros-là nous touchent. Donc, on s'accroche à ça. Et donc, le foot, le sport, je faisais mes cahiers quand j'étais petit, comme Mariano, la part autobiographique du roman, elle est là aussi. C'est, j'écrivais mon hit parade tous les 3 jours et mes classements de foot et je notais des joueurs que je voyais jamais jouer au foot. Voilà. Après, tout ne s'explique pas forcément. J'ai pas envie de tout expliquer parce que quand on écrit un livre, tout est dedans, a priori, hein. L'expliquer, c'est déjà un peu le travestir, le livre. Donc, on peut pas donner d'explication à tout, mais si vous me posiez la question, quels étaient les leviers, pourquoi je m'en sors, le sport, et puis quand même un contexte familial qui, pour moi, n'était pas... je ressentais un abandon, un désamour, mais finalement, c'était pas ça. Finalement, au bout du compte, c'est pas ça.
Oui, mais on sait bien que les adolescents peuvent être là-dedans quelquefois, c'est-à-dire être envahis par le ressenti. Et
exactement.
Du coup, ce que vous dites là, ce décalage entre le ressenti et la réalité, les adolescents, il faut avoir la maturité que vous avez aujourd'hui avoir conscience. L'adolescent,
exactement.
Il est complètement dans le ressenti.
Mais pas que l'adolescent, le jeune adulte, puis l'adulte. Et il faut pardonner à ses parents parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait de leur mieux, évidemment. Mais ça, effectivement, un petit peu de vécu pour le comprendre. Et puis pour comprendre vraiment ça, c'est-à-dire que on a un ressenti, et puis il y a la vérité. Et parfois, on pense que le ressenti est la vérité. Et c'est rarement le cas, en fait.
Vous en avez voulu à vos parents?
On en veut toujours à ses parents. Toujours, d'une certaine manière, à un moment ou à un autre. Mais je crois qu'il faut, il faut pardonner.
Qu'est-ce qui fait que on bascule à un moment donné dans le pardon justement?
Oh, je pense que c'est un long chemin.
Ouais.
Ouais, c'est un long chemin et puis apprendre la bienveillance, apprendre à respecter. D'abord, je pense que la clé, c'est d'abord s'aimer soi-même. Quand on commence à s'aimer soi-même, c'est-à-dire avoir de l'estime de soi, et ça, on en a pas parlé, mais c'est vrai que la dyslexie, plus elle est détectée tard, plus l'estime de soi est proche de zéro. Et donc la mienne était vraiment très proche de zéro, puisque j'ai été détecté à 12 ans seulement. Quand on reconstruit ça, l'estime de soi, on s'aime plus, et en s'aimant plus, on a plus de facilité à aimer les autres, donc à pardonner aux autres.
Éric Jeunetet, qu'est-ce que vous diriez à un gamin de 12 ans, aujourd'hui, en grande difficulté à l'école, et qui vient d'apprendre qu'il est dyslexique? Vous lui dites quoi?
Je dirais, c'est pas grave, continue ta vie, passionne-toi pour des choses, tout ce que tu as au fond de toi, fais-en quelque chose. Tu vas trouver la clé à un moment. Moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est Fort Boyard, que je cherche des clés tout le temps. Et on trouve toujours les clés, mais il faut les chercher. Il faut avoir le courage de les chercher. Parfois, c'est pas simple, mais il faut jamais lâcher.
Merci beaucoup, Éric Jeunetet, d'être venu nous voir ce matin. On rappelle que votre livre s'appelle Tomber. Mmh. C'est vous, un peu, et puis c'est un roman, beaucoup. Et c'est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.